Chapitre 30. La promesse de Zizo. La porte grinça affreusement quand Alix l'ouvrit. Alix s'empressa de la refermer derrière elle. Les serrures de métal heurtèrent l'épais encadrement de bois, comme si une étagère entière était brusquement tombée à terre. Zizo se réveilla en sursaut. Quelqu'un entrait dans sa chambre en pleine nuit. Il écarquilla les yeux pour reconnaître la silhouette qui avançait vers son lit, une torche enflammée à la main. Alix ?
Parle moins fort.
Alix accrocha la torche à un portoir de fer au mur.
Qu'est-ce qui se passe ? S'inquiéta Zizo sans baisser la voix. Pourquoi tu débarques en pleine nuit ? Je vais être exécuté ?
Zizo n'avait aucune notion de l'heure. Il avait l'impression d'avoir dormi longtemps et qu'on s'approchait donc du petit matin. D'après ses souvenirs de cours d'histoire chez les savants, c'était l'heure où l'on venait chercher les condamnés pour les pendre ou les guillotiner.
« Mais non, idiot! Je viens te sauver !»
Zizo s'assit sur son lit, soudainement réveillé.
« Me sauver? Ça y est? Ils ont enfin compris que je n'avais pas triché? Je suis innocenté ?»
Alix s'agita dans la pièce, inquiète et pressée.
« Pas vraiment. Ils sont même de plus en plus convaincus du contraire. » Alors je suis venu t'aider à t'évader. »
Zizo s'effondra de tout son long sur le matelas, comme abattu par une brutale désillusion.
Fais pas ça. On saura que c'est toi. Si je m'en sors, c'est toi qui me remplaceras dans ce cachot.
Oublie pas que je suis reine.
Plus que pour quelques jours.
Alix se rapprocha du lit. Elle avait l'air fâchée, visage fermé, même si la danse des flammes rendait son profil particulièrement joli. Doré comme une statue de cuivre.
D'accord. Tu préfères rester là et attendre que les enfants soldats de Jeanne d'Arc viennent te chercher pour te battre à grands coups de beau? Parce que c'est ce qui t'attend dans 2 heures.
L'argument porta.
Quoi? Ils feraient ça au gentil petit sauvage qui s'est entraîné avec eux depuis 6 mois? Alors, vas-y. C'est quoi ton plan?
Pas mon plan, justement. Un plan. Alix s'assit sur le lit à côté de Zizo et déplia la feuille de papier qu'elle tenait dans sa main. Zizo détailla, à la lueur de la torche, un dédale de couloirs, d'escaliers, de portes. Il découvrait un plan précis des couloirs du métro qui partaient des souterrains du château et se perdaient dans la ville. Zizo ne pouvait détacher ses yeux de la carte.
« Qui t'a donné ça ?
Tu ne devineras jamais. » Zizo hésita à faire remarquer à Alix qu'il n'avait pas le temps de jouer aux devinettes, ni l'envie, qu'on allait venir le chercher pour le battre dans quelques heures. Il se contenta d'un haussement d'épaule interrogatif.
« Ogénor !»
chuchota Alix, comme si son conseiller se trouvait de l'autre côté du mur à chercher le tombeau de Marie-Lune.
« Ogénor ?»
répéta Zizo, incrédule.
« Tu lui as volé ?»«
Non, il me l'a donné, je te dis. »
« Ce serait trop long à t'expliquer, mais il est d'accord pour que je te laisse sortir de ton cachot et que je te remette ce plan.
À une seule condition.
Que je l'invite au 4e étage du Tipeee quand je serai rentré. La vue est la plus belle de Paris, mais faudra que tu dises à Ogénor qu'on n'a pas d'ascenseur. Il y a plus de 1000 marches et... »
Alix le pinça pour qu'il se taise.
« Idiot ! La condition d'Ogénor,
c'est que tu détruises ce plan sitôt que tu es sorti du château. Tu m'entends bien ?»
Tu dois le brûler avant de retrouver tes amis du Tipeee. Ils ne doivent pas tomber dessus. Tu te rends compte que c'est une entrée secrète dans le château qu'on est en train de t'indiquer ?
Zizo continuait d'étudier la carte,
fasciné.
Promis, je le détruirai. Mais je risque de m'en souvenir, au moins en partie.
Tu dois aussi jurer de ne rien dire à tes amis du Tipeee. Ogénor et moi prenons un grand risque en te laissant sortir, et cette fois-ci, ce fut Zizo qui pinça Alix.
Aïe ! Désolé, Majesté. Tu me prends pour qui ? Tu crois vraiment que je pourrais vous dénoncer ?
Alix prit la main de Zizo.
Je ne sais pas. Une fois là-bas, avec tes amis, tu pourrais hésiter. Ils vont te supplier de tout raconter. Ils vont vouloir connaître nos points faibles. Au fond... Tu es un espion, non? Un espion qui m'a sauvé la vie, mais un espion tout de même.
Elle le regarda droit dans les yeux, soudain plus sérieuse.
Et puis, tu aurais de bonnes raisons de nous en vouloir. On t'a gardé enfermé pendant des mois. On t'a accusé d'avoir triché. Le conseil a voté pour t'emprisonner et te fouetter. On ne manque pas d'enfants stupides qui n'aiment pas les étrangers dans le château. Tu pourrais vouloir te venger.
Zizo serra plus fort encore la main d'Alix, se pencha doucement et déposa un bisou sur sa joue.
Merci. Pourquoi merci? T'as dit, on t'a accusé d'avoir triché. Ça veut dire que toi, tu n'y crois pas. Tu m'as vu déplier la carte d'Osman, tu m'as vu foncer direct vers le livre d'or, et pourtant, tu ne penses pas que j'ai triché?
Non.
Pourquoi?
Alix lui rendit son bisou.
Parce que tu es mon ami.
Ouais, Sabi aussi est ton ami. Et ça ne la dérange pas d'enfreindre tous les commandements.
Alix prit cette fois le temps de réfléchir avant de répondre, semblant puiser dans ses souvenirs.
Alors, je vais tout te dire. Je te crois parce que tu n'as pas eu besoin de tricher pour gagner le tournoi de l'étoile. Parce qu'il m'est arrivé la même chose l'année dernière. Exactement la même chose. Je ne sais pas comment appeler ça. L'instinct, l'intuition, ce hasard qui fait qu'on devine avant les autres, comme si une voix dans notre tête nous mettait sur la piste, nous montrait le chemin, à nous et pas aux autres. Tu l'as ressenti, cette impression de ne pas mériter ta victoire? Que c'était seulement le résultat d'un étrange hasard?
Zizo fixa Alix, stupéfait. Elle venait de lire dans ses pensées.
Oui, je l'ai ressenti, pareil que toi. Un sentiment bizarre d'avoir été aidé par quelqu'un sans qu'on demande rien.
Mais toi, tu es une enfant du château, alors personne ne t'a accusé d'avoir triché. Au contraire, on t'a élu reine.
Alix sursauta. Ils entendaient des pas de l'autre côté de la porte. Les pas ralentirent quelques instants, puis accélèrent à nouveau et s'éloignèrent. Un tour de garde des enfants soldats, sans doute.
Allez vite, fit Alix en se levant. Sauve-toi.
Zizo attrapa sa veste, enfila ses chaussures, et ils se dirigèrent ensemble vers l'entrée du cachot. Ils ouvrirent à quatre mains, le plus silencieusement possible, la lourde porte de bois. Le long couloir, éclairé de lampes à huile, s'ouvrait droit devant eux, puis se séparait en deux galeries. Le plan indiquait qu'il fallait prendre celle de droite. Le couloir principal continuait ensuite jusqu'au pavillon des savants, dont l'entrée était gardée par le sphinx. Trois soldats, Idriss, Django et Helios, se tenaient devant l'animal fantastique, à sucer des lollipops, leurs beaux posés contre le mur. Impossible de s'engager dans le couloir. Si l'un d'eux se retournait, Zizo serait immédiatement repéré.
« Fallait s'en douter !» fit Zizo désespéré. « Jeanne d'Arc a posté des gardes partout !»«
Attends quelques secondes, le miracle ne devrait pas tarder à arriver !»
Ils patientèrent plusieurs longues minutes. Le miracle ne semblait pas pressé et Alix paraissait de plus en plus énervée.
« Qu'est-ce qu'elle fait ?» marmonna-t-elle. « Jamais à l'heure quand on a besoin d'elle, cette... »
Sabi surgit à l'autre extrémité de la galerie à ce moment précis. Elle se dirigea droit vers le sphinx. Les trois gardes se retournèrent et crurent avoir vu un fantôme. Un très joli fantôme. Sabi se promenait pieds nus dans les couloirs, ses longs cheveux décoiffés, vêtue d'une nuisette blanche tellement serrée qu'elle devait la porter depuis l'âge de 6 ans. Zizo était trop loin pour la détailler, mais il eut l'impression que Sabi avait peint des motifs sur sa nuisette. Des femmes, des bébés, des épées, rappelant immanquablement le fameux tableau disparu, les Sabines. Deux des enfants soldats, Idriss et Django, dans un mouvement parfaitement coordonné, saisirent leurs beaux et les croisèrent pour barrer l'entrée du pavillon des savants à Sabi.
« Tu n'as pas le droit d'être là, Sabi. Tu devrais être au pavillon des singes. Et au lit. »
Sabi ne sembla pas impressionnée. Elle entortillait autour de son index une longue mèche de cheveux tout en avançant, ondulant dans sa nuisette minuscule.
« Vous ne dormez pas non plus, les gars, à ce que je vois. »
Idriss et Django sourirent, mais derrière eux, Helios n'eut pas l'air d'apprécier la plaisanterie. Il mâchouillait un bâton de réglisse et portait ses éternelles lunettes de soleil qu'il releva sur son front jusqu'à sa casquette posée à l'envers sur sa tête.
« Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» fit-il d'un ton méprisant.
« Bah, Je viens voir mon chéri. »
Avant que les trois gardes aient eu le temps de répliquer quoi que ce soit, Valère sortit de l'escalier qui descendait du dortoir des savants, vêtu, à l'inverse de sa vie, d'un pyjama trop grand pour lui. On aurait dit un somnambule, avec ses cheveux en hérisson et ses lunettes tordues sur le nez. Le savant paraissait minuscule face aux trois grands gardes.
« Alors tu as trouvé ?» demanda Sabi sans même dire bonjour à l'élève historien.
Valère retira ses lunettes, les frotta sur la manche de son pyjama, les remit sur son nez, plus tordus encore. Il sembla vérifier que les trois enfants soldats n'étaient pas trois statues placées là. Quand il comprit qu'elles voyaient et entendaient tout ce que Sabi racontait, et qu'ils étaient témoins de leur rendez-vous nocturne, sa peau de fromage blanc prit une teinte fraise des bois.
« Bredouilla néanmoins Valère, soucieux de ne pas décevoir Sabi. « J'ai bien travaillé et... »
Hélios cracha son bâton de réglisse et fit un pas en avant.
« Faut pas rester là, les amoureux. Vous ferez votre déclaration demain matin sous la pyramide. Maintenant, tout le monde au lit !»
Sabi fit comme si elle n'avait rien entendu et se trémoussa devant Valère.
« L'écoute pas, mon Valérie chéri. Il ne peut pas comprendre. Il a beau avoir des biscottos, il a pas encore commencé sa puberté. » « Pas comme toi, mon petit homme !»
Valère vira écarlate. Il ne parvenait pas à détacher ses yeux de la nuisette de Sabi sur laquelle le tableau des Sabines avait été très grossièrement peint.
« Alors, mon tableau ?»«
J'ai trouvé, je crois. J'ai presque tout compris. Je dois encore vérifier quelques détails et... »
Hypnotisé, Valère allait encore s'avancer vers Sabi, comme pour toucher le tableau déformé par les courbes de la Lolly Girl, mais Hélios plaça son beau entre les deux.
« Ça suffit, vos gamineries. Chacun dans son dortoir. »
Sabi se tourna alors de trois quarts, entre Hélios et Valère. De la porte de sa prison, Zizo crut même qu'elle leur adressait un clin d'œil. Puis elle se positionna devant le sphinx et s'accouda, provocante, à sa patte en pierre.
« Soyez pas jaloux, les garçons. Vous êtes beaux comme des dieux phéniciens. Mais Valère est beaucoup plus intelligent que vous, c'est tout. Vous comprendrez le cerveau des femmes plus tard. »
Elle passa sa langue sur ses lèvres.
« Elles sont à quoi, vos lollipops ?»«
Maintenant !» chuchota Alix à l'autre bout du couloir. « Ils sont le dos tourné. Fonce !»
Elle lâcha le plan du métro qu'ils tenaient tous les deux.
« Tu me jures que tu ne t'en serviras pas pour faire la guerre ?»« Je te jure !» Je le brûle dès que j'aperçois la sortie. Je te retrouverai, Alix. Et même si nos deux camps décident de se faire la guerre, on se retrouvera pour sauver la paix.
Sauve-toi, idiot. Sauve d'abord ta peau.
Et avant que Zizo ne file dans le couloir, elle posa un baiser sur ses lèvres. Le plan d'Ogénor était compliqué. Zizo devait s'arrêter à chaque bifurcation pour vérifier son chemin. Il utilisait, une à une, les allumettes de la boîte qu'Alix lui avait donnée. Il fut d'abord convaincu qu'il se trouvait sous la cour carrée, près de la sortie secrète qu'il avait empruntée une fois avec Alix, mais ensuite la carte lui fit parcourir un interminable labyrinthe de couloirs. Des impasses, des escaliers à monter, à descendre, des tunnels allongés en suivant les rails du métro. Zizo, au départ, avait essayé de mémoriser le parcours, mais il dut rapidement y renoncer et se contenter de suivre les indications du plan. Un croisement, une allumette. Son stock diminuait vite, et il savait que, quoi qu'il arrive, il devait en garder une dernière. Plus il s'éloignait du château, et plus le plan se simplifiait. Il suivait maintenant de longs couloirs, de larges galeries, des halls presque aussi hauts que la nef du sanctuaire. Il marchait depuis si longtemps que le jour s'était peut-être levé dehors. Il continua. Il lui restait une quinzaine d'allumettes quand il lut le nom au-dessus de ses yeux. Trocadéro. Il était arrivé. Il connaissait le nom de la plupart des stations de métro, et Trocadéro était la plus proche du tipi. Elle débouchait derrière le grand bâtiment blanc en forme de sourire de baleine, le palais de Chaillot, d'après les cartes d'Haussmann. Ensuite, Zizo n'avait plus qu'un grand escalier à descendre et la Seine à traverser. Il avança encore. Il devinait le jour tout en haut des marches devant lui. Un sentiment d'euphorie le gagnait.
Il allait revoir Akane, Chrysante, Vanille, et surtout Agnelle, son ami depuis qu'il était né. Maintenant qu'il se trouvait à quelques mètres, il se rendait compte à quel point Agnelle lui avait manqué. Tout comme la liberté de marcher dans les rues, de se promener, de pêcher sur l'île aux cygnes, de courir dans la forêt, de jouer. Il revenait du château plus instruit, plus intelligent, plus sage, mais sa vie était ici, à l'air libre, dans le vent du tipi. Il commença à monter l'escalier, vers la rue, le plus rapidement possible. Son cœur battait au rythme des marches qu'il gravissait, de plus en plus vite. Encore une dizaine, il pourrait crier, agiter les bras. Le tipi était juste en face, ses amis le reconnaîtraient, eux aussi crieraient leur joie. 3 marches encore. Il entendait le chant joyeux des grillons qui cherchaient la chaleur à l'entrée des stations. Au-dessus de lui, il apercevait cette fois un morceau de ciel rose et quelques oiseaux volés. Zizo imagina qu'Agnelle devait les observer du haut du tipi. Agnelle se levait toujours tôt. Il était pratiquement sorti du métro, perdu dans ses pensées. Il aurait adoré qu'Agnelle, Alix, Sabi se rencontrent. Il aurait adoré que tous deviennent amis. 3 dernières marches. Il aperçut le tipi, peut-être le voyait-il aussi. L'air frais fouettait déjà son visage. Il entendait les bruits de la... Zizo s'arrêta soudain. Il baissa les yeux stupidement vers le plan qu'il tenait dans sa main droite et les allumettes en fagot dans la gauche. Il avait failli oublier. Par simple étourderie, il avait failli ne pas tenir sa promesse. Il regarda encore presque à regret la flèche du tipi dans le ciel, puis s'assit sur la marche où il se trouvait. Il coinça le plan sous ses fesses pour qu'il ne s'envole pas, saisit le fagot d'allumettes et le gratta. Aussitôt, une grande flambée s'éleva. Le vent qui s'engouffrait dans l'escalier du métro soufflait par tourbillons et un instant, Zizo regretta son geste. Il suffisait qu'un courant d'air souffle toutes les flammes d'un coup. Elle ne pourrait plus détruire le plan. Vite, il attrapa la carte et approcha les allumettes enflammées. Il hésita une dernière seconde. Il était incapable de se souvenir du chemin qu'il venait de parcourir. Si la feuille de papier flambait, jamais il ne pourrait entrer à nouveau dans le château, même si ses amis du tipi le suppliaient. Le plus nul de tous les espions. C'était mieux ainsi, au fond. Il approcha encore le plan qui, immédiatement, prit feu. La torche de papier se tortilla sur la marche de l'escalier, pour se réduire, quelques secondes plus tard, à une poignée de confettis carbonisés que le vent dispersait. Désormais, il ne pouvait plus rebrousser chemin. D'un pas déterminé, il gravit les 3 dernières marches vers son nouveau destin.